Alléluia. Bonjour à tous. Le Seigneur nous a déjà bénis. Parfois, je me dis, tiens, je vais juste compléter ce que nous avons entendu ce matin. Le Seigneur est fidèle, c'est lui qui orchestre tout par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Gloire à Dieu. Je salue le pasteur Pierre Segura, son épouse, leur fille. Il aurait pu prêcher, mais il m'a laissé la place. Que Dieu le bénisse. Alléluia. J'ai notre fils, Michael, qui va partir au Niger, parmi les Gourmandchés, pour lancer les écoles. Donc, veuillez prier pour lui. Il a eu un temps d'arrêt dans son travail. Donc, il en profite pour partir 3 semaines au Niger. Donc, pour les écoles qui commencent, la mise en place et tout le travail social mené avec le travail spirituel. Priez pour lui, pensez à lui, pour qu'il fasse cette mission avec foi, avec la confiance du Seigneur, et que cela aboutisse. Amen. Je vous invite à faire une lecture dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 16. Il est dit ceci, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est des passages qui peuvent nous étonner, mais c'est assez particulier. Le monde qui appartient à Jésus peut racheter le temps. Aussi, faut-il être avisé dans quel temps nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit que nous vivons des temps derniers, les temps fâcheux, les temps mauvais, où, vous le savez, je ne vous apprends rien, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je ne vous apprends rien, vous le lisez dans la parole de Dieu, mais c'est quand même assez particulier de voir qu'aujourd'hui, eh bien, la situation de dégradation morale, humaine, eh bien, est en train de se faire devant nous. Et parfois, je me demande, est-ce que même, eh bien, avec ce qui se passe, le terrorisme, les tueries, les violences, et j'en passe, l'immoralité, est-ce que même les forces de l'ordre vont arriver à contenir cet état de choses? Et pourquoi je le dis? Non pas pour qu'on prenne un vent de panique sur nous, mais pour que nous sachions que dans ces temps derniers, eh bien, les choses vont s'accélérer. Et le Seigneur l'avait bien dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, il y a des gens qui présentent bien, il y en a d'autres qui sont monsieur, madame, tout le monde. Apparemment, rien n'est mauvais, mais tant que l'on n'est pas au Seigneur Jésus, nous ne sommes pas et nous sommes sous la domination du malin. Et ça, c'est clair, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, il est dit, vous êtes avertis. Jésus même dira, je vous ai averti de toutes choses. Les derniers temps seront assez caractéristiques. Et même, il est dit dans Paul aux Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a un mystère, on ne comprend pas comment certaines personnes ont pu en arriver là. Qu'y a-t-il donc? Est-ce qu'il y a une explication psychologique? Est-ce que après les tests, on peut dire cette personne a fait cela parce que la folie, il y a plus que cela, il y a un mystère de l'iniquité et qui, malheureusement, est contagieux. Alors, le Seigneur dira, je vous ai averti. Nous, chrétiens, l'Église elle-même est placée sur la terre pour être la lumière. Amen. Le sel de la terre. Et nous ne pouvons pas rester fatalistes, résignés devant cette situation. Nous avons entendu un don spirituel ce matin. J'y mettrai tout simplement l'approbation parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est juste tout à fait l'heure. On ne peut pas être transfusé d'informations et dire « c'est comme ça ». Nous avons une implication, une responsabilité, Dieu nous la donne et nous allons y arriver. Dieu veut que nous puissions racheter le temps et ne pas le laisser fuir. Car en réalité, même nous, chrétiens, si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous risquons d'être entraînés par l'égarement des impies, perdre le temps, la vie que Dieu nous donne et laisser passer cette occasion du réveil où Dieu peut faire que la planète entière, avant son retour, eh bien, soit aussi touchée par l'évangile de Jésus-Christ. C'est prétentieux, vous me direz, mais non, il faut savoir qu'on a un grand Dieu à qui il faut demander de grandes choses. Et que quand on lui aura demandé de grandes choses, il dira au niveau de sa potentialité, de sa capacité, de son omnipotence, je le ferai, mais j'ai encore des réserves. Dieu est au-dessus de tout. Il n'a personne au-dessus de lui. Et nous devons lui demander qu'il agisse et ne pas être, je le redis, résigné en disant comme ça, en parlant comme tout le monde, nous, on a le Seigneur qui est à la droite de Dieu, qui est ressuscité, qui est vivant, qui a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Comment on va laisser échapper le temps et laisser le monde s'enfoncer dans le bourbier du péché? Le temps est court, nous dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7. Que même ceux qui ont une femme fassent comme s'ils n'en avaient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aimer, il faut l'aimer. Et la femme doit se soumettre à son mari. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Le Seigneur veut dire parce que le temps est court. Ce n'est pas Paul qui l'a dit seulement, mais le Saint-Esprit l'a dit, le temps est court. Faites attention que même les problèmes de la vie, les problèmes familiaux, ne vous voile à vos yeux l'immense banqueroute humaine, la tragédie qui est devant nous. Le monde s'enfonce et va vers la perdition parce que quelque chose est devant leurs yeux et qui les empêche de le voir. La famille, oui, mais pourquoi il est dit le temps est court, celui qui a une femme comme n'en ayant pas ou celle qui a un mari comme n'en ayant pas? Ça veut dire que remettez votre femme entre les mains du Seigneur, remettez votre mari entre les mains du Seigneur, remettez vos enfants entre les mains du Seigneur, remettez vos biens, votre immobilier entre les mains du Seigneur, remettez tout ce que vous faites dans le monde, parce que bien sûr il faut gagner son pain à la sueur de son front, remettez tout entre les mains du Seigneur, priez, Dieu va vous donner de transcender cette lourdeur parfois qui existe et qui nous empêche de voir qu'il y a un temps où nous pouvons être très efficaces, mais nous risquons de le laisser passer. Priez, le temps est proche, le temps est proche. Et le Seigneur le dit, puisque le temps est proche, il faut racheter le temps. Comment? Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, des supplications, des actions de grâce, écoutez bien, faites connaître vos besoins à Dieu. Si nous voulons porter les fardeaux, le Seigneur dit, porte-les, mais tu ne vois pas mon œuvre, tu n'es pas efficace, tu n'es pas engagé, tu ne penses qu'à tes soucis. Mais quand tu pries, regarde, il prend soin de toi, il va prendre ton affaire en main, ou il va faciliter, ou il va te donner l'intelligence pour que tu sois rendu capable par le Saint-Esprit. Un jour, c'est juste une petite anecdote, je vais très vite passer. J'avais mon tracteur agricole qui ne marchait plus, le relevage ne montait plus. J'ai fait venir le garagiste. Il m'a dit, il faudrait démonter le moteur, ça ne vaut pas la peine, tout ça. Je me suis mis à prier et j'ai dit, Seigneur, j'ai ce tracteur et je ne voudrais pas maintenant faire payer une réparation plus grande que la valeur marchande de ce tracteur. Seigneur, aide-moi. Je suis allé et je trouvais la panne. Le mécanicien ne l'avait pas trouvé. Et il est fort pourtant, j'ai trouvé la panne, je me suis réparé depuis, il marche. Je dis, Seigneur, nous avons besoin de mettre tous nos soucis, nos problèmes entre tes mains. Le Dieu des grandes choses, c'est le Dieu des petits détails. Et c'est pour cela qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien. Comment ? Aujourd'hui, si vous entendez cette parole, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit, eh bien, je n'osais pas demander au Seigneur cette affaire, mais pourtant, elle me travaille la nuit, elle me travaille le jour. Mais Seigneur, je la remets entre tes mains et tu commences par les prémices à me donner ta paix qui garde mon cœur en Jésus-Christ. Et quand notre cœur est gardé en Jésus-Christ, le Seigneur nous montre, voilà ce pourquoi tu as été appelé. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour du Seigneur vienne à l'improviste, veillez et priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. J'ai trouvé, Seigneur, j'ai trouvé le secret. Il faut prier et il faut veiller, sans quoi nous avons cette lourdeur qui s'appesantit sur nous et qui nous paralyse. Mais en priant, Seigneur, mais d'une part, j'aurai la modération en mangeant, en buvant, mais aussi les soucis de la vie. Tu ne nous as pas dit qu'il n'y en aurait pas, mais tu l'avais quand même dit quand on est fatigué et chargé de venir à toi et que tu nous donneras le repos et que nous trouverons le repos de nos âmes. C'est quand même écrit. Et par la prière, je voudrais vous en parler, frères et sœurs, et vous dire que quand même, si on regarde la vie de prière, je dis personnelle, il y a la prière ensemble, mais la prière personnelle. D'ailleurs, la prière ensemble, elle deviendra puissante dans la mesure où toi, tu passes du temps devant le Seigneur, où tu lui confies tout ce qui t'arrive. Et le Seigneur s'en occupera. Et je crois, frères et sœurs, que nous avons besoin de faire des progrès à cet effet. Le diable attaquera ta vie de prière. Il la sapera de manière en ce que tu sois toujours inquiété. Tiens, hier, j'étais en train de prier, tout d'un coup, une voix me dit, eh bien, tu as perdu les clés de la voiture de quelqu'un qui l'a garée chez toi. Tu t'en es servi l'autre jour. Et alors, j'étais visité par Dieu et j'avais envie de partir à la recherche des clés. Attendez ma méthode. J'ai pris un stylo, j'ai écrit sur le papier, clé perdue d'Abillot. Et je continue à prier. Et des heures après, je suis allé chercher les clés tout juste à l'endroit, mais c'est vrai, j'étais perdu. Mais je sais que l'ennemi veut attaquer ta vie de prière pour que tu ne pries pas de manière en ce que tu délivres les âmes au nom de Jésus. Il veut que tu pries pour des petites broutilles qui peuvent t'arriver. Et puis, tranquillement, tu vas maintenant vivre. Mais l'ennemi sait que l'homme qui prie, la femme qui prie, le jeune qui prie, il restera debout pour le Seigneur et Dieu lui montrera les œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'il les pratique. Mais quand on ne prie pas, comme le disait quelqu'un, tu peux faire beaucoup de quand tu as prié, mais tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas prié. Je ne dis pas que la prière est un but en soi, mais je dis que c'est la communion avec le Seigneur. Cette présence de Dieu, le Saint-Esprit qui vient nous visiter et nous donner de faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Priez, frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Sages et sobres pour dire, Seigneur, je m'adonne à prier. Parce que quand je te parle, je ne fais pas que parler des phrases après des phrases, comme les pharisiens qui multipliaient, mais Seigneur, je te parle, j'écoute, je crois que tu m'as entendu et Seigneur, je verrai aussi le résultat. Soyez sages et sobres et en même temps, ayez entre vous tous un ardent amour qui couvre une multitude de péchés. Le temps est proche et nous devons nous aimer les uns les autres. Ardemment, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On ne peut pas zapper la situation pour dire « tant pis l'autre, mais ma sœur, mon frère, je peux t'aimer et je t'aime par la grâce du Seigneur Jésus et parce que je viens chercher chez lui l'amour qui déverse par le Saint-Esprit dans mon cœur. » La même grâce t'est offerte. Et quand nous sommes capables de nous aimer ardemment les uns les autres, l'ennemi ne peut rien faire. Parce que ce qui ne peut pas singer, ce qui ne peut pas imiter, c'est l'amour. Il peut faire quelques miracles, Satan. Il peut faire des impressions qui nous donnent des impressions de miracles. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est aimer. Et à ceci, on reconnaît que nous sommes du Seigneur, parce que nous avons de l'amour, et ça c'est assez caractéristique dans le monde chrétien. À ceci, on vous reconnaît comme étant mes enfants, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Priez, priez frères et sœurs. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Le frère Norbert en a parlé, je me dis merci Seigneur, tu me fais rentrer dans le corridor de ton inspiration. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment favorable. Dieu parle, vous le savez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas sévère. Ne croyez pas que parce que j'élève la voix que je suis sévère. Je sens l'amour, la douceur de Dieu qui vous dit tout. Écoute la voix de Dieu. Écoute. Et écoute-la, non pas pour dire « dans quelque temps, je verrai », comme les gens d'Athènes. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Non, non, maintenant, c'est le moment favorable. Craignons, pendant que la promesse est réservée, que certains paraissent être arrivés trop tard. Hébreux 4. Trop tard ? Trop tard quand je vois les vierges folles qui sont capables de faire exactement ce qu'elles auraient dû faire plus tôt, aller chercher de l'huile, trop tard. Ah, vous me dites maintenant, je ne suis pas quand même bien disposé, nous allons en parler. Mais maintenant, obéissez, maintenant, que tardes-tu ? Engage-toi avec le Seigneur si tu n'es pas encore baptisé, engage-toi. Maintenant, fais tout dans ton cœur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, abandonne tout le péché qui peut être particulier et t'envelopper si facilement, maintenant. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité, Apocalypse 2:21. Il s'agit de Jézabel, c'est-à-dire un nom emprunté dans la Jézabel d'autrefois, mais sa particularité, c'est qu'elle poussait les autres à l'impudicité et elle était dans l'impudicité. Mais ce qui nous intéresse, c'est le temps. Le temps où le Seigneur lui dit, je lui ai laissé du temps. Et puis, à un moment donné, elle n'a pas voulu. Alors, vous savez que le Seigneur nous aime tant. Il veut tellement que nous entendions sa voix maintenant. Mais si on ne veut pas, Dieu respecte le libre arbitre. Ouvrir ou fermer son cœur à volonté, comme vous voulez. C'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce qui veut dire, c'est que tu peux l'ouvrir et l'attendrir. On peut ouvrir, on peut fermer son cœur. Dieu nous donne du temps, et parfois on ne veut pas. Ou on trouve un prétexte que c'est pas le moment. Vous savez, un jour, le propriétaire d'un figuier dans son champ. Il a dit, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit, je n'en trouve pas. Et il dit au vigneron, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement cet emplacement ? Et le vigneron, il a dit, attends, attends, je creuserai encore cette année, laisse encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous savez, le Seigneur nous dit qu'il a confiance en nous. Il sait qu'on peut se réveiller là, en direct, et dire maintenant, c'est vrai, je remets tout entre tes mains, mais Seigneur, je veux t'aimer au possible, je veux t'aimer comme tu m'as aimé, je veux le prouver, je veux vivre dans une sainteté, une pureté qui fera vraiment contraste avec tout ce qui existe dans le monde ambiant, mais Seigneur, je le veux pour toi. Et le Seigneur dira alors, maintenant, si par cas je t'avais vu ne pas porter du fruit, eh bien, d'avoir creusé, d'avoir mis du fumier autour, alors tu vas porter du fruit. Alléluia. Le Seigneur a confiance en nous. Le Seigneur sait que nous entendons sa parole et il sait que nous pouvons obéir. Nous avons, comme je dirais, dans un aéroport, pendant qu'un avion va atterrir la nuit, eh bien, tous les feux sont allumés, de manière à ce que tout soit impeccable pour que l'atterritage se fasse sans problème. Je peux dire que ce matin, par le Saint-Esprit, tous les feux sont allumés pour que nous puissions obéir. Dieu tient les ambiances mauvaises, maléfiques, il les tient en respect pour que toi, tu aies un cœur qui se décide. Tu aies un cœur qui obéisse, tu aies un cœur qui vraiment se met à dire « Seigneur, maintenant, je t'ouvre mon cœur ». Et puis, voilà, il y a des moments, vous savez, dans la vie, des circonstances qui ne se reproduiront plus. Le frère faisait état à Chicago pendant que Moody a prêché. Certains ont pensé que c'était à dimanche prochain, on verra un autre message. Mais il y a des temps où il faut vraiment comprendre que le Seigneur, dans son amour, dans sa patience, nous appelle. Le temps passe, il y a des moments qui ne se représenteront plus, mais je vous en prie, aujourd'hui, rachetez le temps, laissez tomber tout ce qui est du péché, laissez tomber tout ce qui, vous le savez, déplaît à Dieu et obéissez, vous allez voir sa gloire. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Va-t-on mourir sans avoir vu un réveil ? À moins que ça ne soit pas votre but ultime. Mais quand même, on nous a parlé autrefois d'un réveil en France qui a touché quelques localités qui étaient déjà grandes, mais qui n'est pas venu faire comme une lame de fond dans toute la France. On a parlé de grands réveils en Amérique, et on parle comme dans un passé très lointain. Il y a dans nos églises et nous-mêmes, parfois, on n'a jamais vu un réveil, on ne sait pas ce que cela signifie. On parle de réveil. Vous savez ce que cela signifie, un réveil ? Peut-être vous ne l'avez jamais vu, mais le jour où le Saint-Esprit nous saisit, le jour où l'Église est vraiment en communion avec le Seigneur, mais c'est la ville de Toulouse qui peut bouger. C'est notre nation qui peut bouger, c'est notre continent. C'est même, et ça, je le dirai, et ça n'engage que ma personne, mais je dis que s'il n'y a pas un réveil, notre génération ou l'humanité s'en va à la perdition. S'il n'y a pas un réveil de l'Église, je parle de l'Église, du monde entier, si elle ne vise pas ce but que le Seigneur veut nous accorder, s'il n'y a pas ce réveil, l'humanité s'enfonce dans la perdition pendant l'éternité. Ce réveil, il nous le faut.
C'est l'heure de vous réveiller, déjà personnellement, mais déjà au niveau de l'église locale, au niveau des églises en France et partout. C'est plus que des paroles. Le Seigneur nous le demande et nous en donne aussi, par certaines paraboles, images, les possibilités, où il est dit dans 2 Timothée 2,6, « Il faut que le laboureur travaille avant de récolter le fruit. » C'est clair. Le laboureur qui a sa semence dans le grenier et qui attend que les saisons passent à la moisson, il attendra aussi. Le Seigneur dit qu'il faut prendre beaucoup de peine. Et le combat dans la prière, c'est beaucoup de peine. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'ennemi fera tout pour que vous n'ayez pas compris que par l'intercession fidèle, sans relâche, vous pouvez amener des peuples, des ethnies au Seigneur, parce que vous intercédez, l'ennemi le sait, et il va vous boucher les oreilles. Il va vous dire, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire, passe du temps devant le Seigneur, passe des heures à crier à lui pour le salut de l'humanité, pour le réveil de ton église locale, de ta personne bien sûr aussi. Et le Seigneur entend, il faut prendre beaucoup de peine si on veut récolter. Voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à l'égard de la pluie de la première et l'arrière saison. Ce qui veut dire, c'est que ce laboureur, il a été au travail. Un semeur sorti pour semer. Et maintenant que le laboureur a tout fait et qu'il attend, il attend la pluie. C'est vrai, on n'est pas dans un pays où on prie pour la pluie, mais moi je suis dans un pays, au Niger, où on prie chaque année pour la pluie. Et nous, chrétiens, on doit prier pour que la pluie divine, c'est-à-dire le Saint-Esprit, descende sur nous d'une manière extraordinaire. Et tout ce qu'on a fait, peut-être dans la sécheresse, dans les moments difficiles de fatigue, eh bien tout d'un coup, c'est ça le réveil. Des gens se réveillent, il y a des réveils de conscience, les gens allument la lumière pendant la nuit, ils ne peuvent plus dormir, ils tournent d'un sens de l'autre dans leur lit, leur conscience est travaillée. Mais c'est au niveau de Dieu de faire cela, mais c'est au niveau de chacun de nous de se mettre au travail. Et Dieu est capable de nous donner cette force, parce que Jésus a tout accompli, il a tout gagné à la croix. Il a tout vaincu. Il n'y a pas une chose, une fêlure dans la situation où il se gratterait la tête. Ça, tiens, je n'y avais pas pensé de ce qui arrive aujourd'hui dans le troisième millénaire. Il a pensé à tout. Il a tout accompli. Il a vaincu pour que Satan soit destitué de tous les pouvoirs. Il a vaincu Jésus pour que toi te dises aujourd'hui, oui, je m'engage. Oui, maintenant, je prierai jusqu'à ce que je voie un réveil. Je crois que c'est Duncan Campbell qui a eu et connu un réveil il y a des années de cela aux îles Hébrides. Et il disait que nous ne savons pas la manière dont Dieu va amener un réveil, mais il faut cependant savoir qu'au préalable, il faut passer du temps en prière. Il faut passer et organiser des groupes qui se mettent à prier jusqu'à ce qu'on voit les écluses du ciel s'ouvrir. Que le Seigneur nous aide, parce que la nuit vient où l'on ne pourra plus rien faire. Nous devons nous attendre au Seigneur. Et puis, voyez-vous, frères et sœurs, j'en arrive à cet état d'intimité avec le Seigneur. Dans le psaume 46, verset 11, Dieu dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le psalmiste disait, dans le psaume 73, verset 16, qu'à un moment donné, ses pieds allaient chuter, il était prêt à tomber, il regardait, il enviait même les incroyants qui menaient la vie comme il la menait à cette époque-là déjà. Et j'étais prêt à glisser, me disant qu'après tout, eux aussi, ils sont contents, on dirait que rien ne leur arrive comme un malheur. Et puis, voilà, à un certain moment, il a dit ceci, « Jusqu'à, je me suis arrêté et j'ai réfléchi. Et la difficulté a été grande à mes yeux, un peu peut-être comme ce matin, où nous disons, Seigneur, quand même, et s'il était sérieux ce pasteur, et s'il ne plaisantait pas, et que ce qu'il dit c'est vrai. Ça me fait réfléchir. Et il est dit qu'il s'est mis à réfléchir, alors qu'il était en train de tituber, j'y vais pas dans le mal. Et quand j'ai réfléchi, j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire je me suis mis devant lui. Et là, pendant que j'étais en train d'être devant lui, il m'a montré une vision. J'ai vu le sort des perdus. J'ai vu ce qui va arriver à ceux qui vivent sans la foi. Et je suis certain qu'il a été récupéré, qu'il n'avait plus envie de pécher ni de chuter. Il a vu le sort qui attend ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, ceux qui sont perdus, ceux qui ne se sont pas convertis à Jésus. Et vous savez, parfois, j'y reviens encore, quand on ne passe pas beaucoup de temps devant Dieu, on voit monsieur, madame, tout le monde, comme les autres, après tout, on discute des mêmes choses, des mêmes projets, des mêmes difficultés, tout ça. Et puis, quand on est devant le Seigneur, notre cœur est meurtri, touché. On se dit, tiens, mais maintenant, je suis en train de vouloir qu'il soit sauvé d'une manière totalement altruiste, désintéressée, divine. Seigneur, je suis en train, Seigneur, de vouloir que telle personne qui habite aux antipodes, elle soit sauvée. Je ne la rencontrerai jamais, mais je l'aime. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais c'est parce que je suis devant toi. C'est parce que tu me montres qu'ils vont en enfer. C'est parce qu'ils font partie de ma race. Et c'est parce que toi, tu les as aussi tant aimés. Et que si l'injustice, le mal s'est étendu sur tous les hommes, ton œuvre et ton acte d'obéissance de grâce s'est étendu sur tous les hommes, et il faut que tous les hommes soient sauvés. Alors Seigneur, je veux rentrer dans ta présence et je veux voir le sort des perdus pour que ma vie s'applique à ton service, à la prière, à l'évangélisation. Je ne veux plus rester quelqu'un qui peut être assisté, qui peut être oxygéné de la parole de Dieu. Mais maintenant, Seigneur, oui, j'obéis. Et je viens d'entendre que tu as tout gagné pour que j'y arrive. Ne dites pas c'est impossible. Ne dites pas vous avez un problème à régler dans quelques heures. Mais dites aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je me décide. Je veux vraiment vivre pour toi. Je veux être dans l'intercession. Je veux changer ma vie devant toi, que tu me purifies, que j'ai un cœur pur, que je vive dans la sainteté, et tant pis si on se moque de moi, même si les proches, eh bien, me fustigent. Maintenant, je n'ai plus peur de cela. Seigneur, je suis à ton contact. Je termine, frères et sœurs. Il faut racheter le temps, les jours sont mauvais. Amen. Alors je vais être assez prosaïque, assez adapté un peu trop sur le terrain, mais pardonnez-moi si parfois je touche des points sensibles. Après tout, il faut la liberté de parole de Dieu pendant qu'on prêche. Amen. Je ne parle pas de liberté de parole, la liberté de parole de Dieu de tout dire. Racheter le temps. On a gaspillé le temps que le Seigneur voulait que l'on emploie pour lui. Il nous a achetés. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes à lui. Peut-on encore revendiquer notre liberté d'agir plutôt que de lui laisser la liberté d'agir au travers de nous et en nous? Alors, il arrive souvent que l'on parle vainement. Que l'on parle, que l'on parle, que l'on parle, et que le temps passe. Et que c'est bien d'avoir des contacts, des relations pour ne pas être asocial. Mais quand même, parfois on parle, et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce qu'au fur et à mesure qu'on peut parler longuement, des fois on peut y mettre des mensonges, on peut saper la vérité, on peut arranger les choses. Le Seigneur nous demande d'être sobre, prompt à écouter sa parole et lent à parler, parce que la langue a fait un grand ravage. Avec la langue, eh bien, on peut incendier, on est des pyromanes. On peut tuer, on peut blesser comme un glaive. On perd son temps. Seigneur, enseigne-moi à appliquer mes jours à la sagesse. Que je sache combien je suis fragile. L'homme se promène et s'agite, mais il ne sait pas qui récoltera. Nous devons savoir garder nos paroles. Refaire le monde, comme certains le font, dans un bowling, ou là, pendant la pétanque, on dirait que c'est eux qui vont gouverner le monde entier, on refait le monde. Non, ça ne sert à rien. Seigneur, apprends-moi à ne pas perdre du temps. Des œuvres inutiles, parfois. On passe notre temps, parce qu'après tout, le temps, vous savez, c'est la vie. Quand notre vie s'arrêtera, vous allez parler du temps ? Le temps de notre vie cédera à l'éternité. Le temps, c'est la vie. Et comment se fait-il que parfois, on peut regarder la télé ? Alors tant pis si même le CD s'en va dans le monde entier. Moi, je n'en veux à personne, ni aux médias. Mais je dis et je parle au peuple de Dieu. Si on passe 2 heures devant un film, devant une comédie, une mise en scène, où la caméra ne peut pas aller partout, elle filme juste ce qu'ils veulent nous faire passer, eh bien, les gens, parfois, sont attachés. Et on pensait que c'est rentré dans une culture de vie que le soir, quand on ferme les volets et sa porte, on va ouvrir la télé et jusqu'à que le sommeil s'en suive. Le Seigneur nous demande de racheter le temps. Passez ce temps en prière, si vous le voulez. Passez ce temps à regarder la parole de Dieu et à entendre ce que le Seigneur vous dit. Mais au final, vous ne serez pas déçus comme Salomon, qui a dit que tout ce que ses yeux ont vu, il ne les en a pas privés, et il a fait tout ce qu'il a voulu. Et au final, il a dit, quand je considère tous les ouvrages, tout ce que j'ai fait, tout est vanité, des vanités et poursuite du vent. Et c'est déjà ce que l'on peut ressentir après avoir regardé pendant 2-3 heures la télévision, cette poursuite du vent. Il ne reste rien, aussi le mal parfois en dépôt. Et les jeux de vidéo, et l'ordinateur, et les casques dans les oreilles. Et finalement, le temps passe. Il y a aussi le temps qui passe parce qu'on laisse vagabonder nos pensées. Les pensées, le Seigneur en a parlé. Il a dit, tu ne convoiteras pas, mais aussi tes pensées. Il faut qu'elles soient menées toutes captives à l'obéissance de Jésus. Ayez la pensée qui était en Jésus. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Mais comment ? Comment, pendant que nos yeux regardent, nos oreilles entendent, on peut avoir des bonnes pensées? Justement, le Seigneur t'a racheté pour être capable de maîtriser tes pensées et les organiser à penser au Seigneur, à penser en pureté, en vérité, en foi, en amour. On peut s'attarder aussi dans un passé périmé qui ne reviendra plus, qu'on ne peut pas refaire. Le Seigneur nous demande de savoir oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Confier ce qui est en arrière au Seigneur, s'il le faut, se repentir profondément, parce que dans le passé, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface comme des remords importants. Et je ne dirai pas du mal sur la psychologie dite chrétienne, mais je dirais surtout le bien, que le Seigneur peut te guérir intérieurement, s'agissant de ton passé, de tes remords, de la culpabilité que le diable, l'accusateur des frères, met en toi. Il peut te guérir en te tenant devant lui, et il faut le croire. La guérison intérieure vient du Seigneur qui nous connaît tellement bien, jusque dans les méandres de notre partie la plus secrète. Le Seigneur connaît et il te guérit et il va exactement d'une manière précision à cette affaire et il t'en guérit. On peut se représenter des jours difficiles à l'avenir. C'est vrai, il y a de quoi s'inquiéter. Mais quand on vient de voir ensemble comment on peut justement contrecarrer le tourbillon du péché du monde qui vient contre nous, eh bien, on ne doit pas avoir peur du lendemain. C'est vrai, nous savons que pour nous, l'avenir, c'est le meilleur. Le futur, c'est le meilleur. Ce qui va se passer dans la gloire, et il faut y penser, c'est le meilleur. Mais en attendant, le Seigneur ne veut pas que l'on soit soucieux et qu'on parle à la manière de ceux qui n'ont pas la foi pour dire « voici la politique, voici demain le chômage ». C'est vrai que toutes ces choses, ces traits de société, ces crises qui nous touchent à tous, elles existent. Mais si vraiment on se les représente comme étant des impossibilités et qu'on est dans la marée et que nous, on ne pourra pas eh bien, s'en sortir, ça ne plaît pas au Seigneur, ça lui fait de la peine. Et dit, mon enfant, sois en paix. Mon enfant, crois en moi. J'ai quelque chose pour toi. Mais crois-le et attends-le. Espère toujours à ton Dieu. Amen. Et puis, savoir dire non, parfois, à certaines invitations. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais parfois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? On perd du temps pendant des heures sur des routes. On passe du temps. Quelques années avant, je disais que quand je serai à la retraite, je veux voir le monde entier. Et on en parlait avec ma femme. Prendre un billet open et puis voir le monde entier. On ne parle plus comme ça. Si le Seigneur le veut, si c'est pour lui, je le veux. Mais si c'est pour la villégiature, Seigneur, je veux que le temps soit racheté pour ton service, Seigneur. Je ne veux pas gâcher ma vie entre des avions, entre des bus, entre des trains. Et je ne veux pas gâcher ma vie sur les routes où parfois je ne peux pas arriver à penser ou entendre ta voix. Je veux vraiment, Seigneur, te servir. Vous allez me dire, mais vous n'êtes pas tombé dans l'extrême, non ? Non, non, attendez. J'ai encore, avec la grâce de Dieu, les pieds sur la terre, la tête sur les épaules. Mais je dis tout simplement, au regard de notre méditation aujourd'hui, racheter le temps car les jours sont mauvais, qu'il faut savoir appliquer nos cœurs à la sagesse. Nous sommes fragiles. Notre vie ressemble à la longueur de la paume d'une main. Et c'est pourquoi investissons pour celui qui a investi sa vie pour nous. Investissons pour celui qui a dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Je me pose la question, quand Jean a eu la vision à l'Apocalypse, qu'il a vu des gens de toute race, de toute nation, de toute ethnie, qui adoraient le Seigneur, mais Seigneur, alléluia, il va falloir que tu le fasses, Seigneur, parce qu'apparemment, d'après les chiffres que nous avons, il y a si peu de gens nés de nouveau sur les 7 milliards et quelques centaines de millions d'habitants sur la terre. Y a-t-il un milliard qui soit né de nouveau ? Je ne crois pas, mais loin de nous, le fatalisme, nous voulons racheter le temps. Amen. Et puis, vous savez, je termine, ce sont des points d'ancrage que je laisse. Ressasser toujours des choses, ce n'est pas bon. Nous devons tout remettre au Seigneur. Les rancunes, les griefs, les amertumes, l'esprit de vengeance, le non-pardon, les fâcheries, la guerre froide, toutes ces choses, parce qu'on m'a fait cela, parce qu'on n'a pas su m'apprécier, que sais-je ? Laissez tout devant le Seigneur et sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait par amour pour lui et pour les autres. Dieu n'est pas injuste, il se souvient de tout. Ne ressassez pas, ne ruminez pas, mais mettez tout entre les mains du Seigneur parce que lui, vraiment, vous donne le pardon, le même que lui nous a donné. Ça veut dire quelque chose,
si le Seigneur me disait « Je t'ai tout pardonné, sauf... » Alors là, je serais mal, et vous aussi. Il ne nous a pas dit cela, il nous a dit « Je t'ai tout pardonné, et je ne me souviens plus de tes péchés, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, j'éloigne de ma face toutes tes iniquités, je n'y penserai plus jamais. » Seigneur, volontairement, tu es tombé amnésique de tout ce que j'étais dans le passé, de tout ce que j'ai fait et de tout ce que même j'ai fait quand je te connaissais et tu as été capable de me pardonner. Et moi, maintenant, je retiendrai la faute de X, Y, cette personne où ça me titille encore. Non, Seigneur, maintenant c'est fini. Je pardonne à tout le monde, je laisse l'amertume, la rancune, j'aime et je veux m'occuper maintenant de racheter le temps, car qui sait si le Seigneur ne reviendra pas dans quelques heures? Qui sait si nous serons encore vivants demain? Mais aujourd'hui, si nous sommes capables d'accepter l'appel du Seigneur, eh bien, il est prêt à tout recommencer, même si tout avait échoué. Il est prêt à nous pardonner, il est prêt à reconstruire nos vies, il est prêt à nous donner d'être des ouvriers, bien que inutiles, qui vont tout faire pour racheter le temps, et ça sera à la gloire du Seigneur, mais ça sera aussi salutaire pour l'humanité, pour la ville de Toulouse. J'ai un rêve, et vous l'avez aussi, c'est que un jour, nous voyons dans des grandes mégapoles comme ici, les gens courir de toutes parts, plus pour aller dans les grands sanctuaires, les lieux de culte, de supermarché ou que sais-je, mais courir parce que, enseigne-moi comment fuir la colère à venir, comment être sauvé, parce que le Seigneur l'aura fait, mais ils ne le savent pas. Pendant qu'on prie, on creuse des galeries sous leur plancher de vache. Et pendant que nous sommes en train de prier, eh bien, à un moment donné, le plancher va s'ébouler et les âmes, ce n'est pas pour leur malheur, vont vouloir se tourner vers Jésus. Rêve, réalité, surréalisme. Écoutons, Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu nous appelle tous à rassembler notre temps, nos minutes, nos heures, nos jours, nos mois, s'il le faut, nos années, nos décades, pour le servir, pour être en communion avec lui et pour qu'il dise, au fond, eh bien, les jours sont mauvais, rachetez le temps et ne vous enivrez plus. C'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Et tout cela que nous venons de voir nous ouvre comme un trou béant. Notre cœur s'ouvre et le Seigneur va nous remplir du Saint-Esprit. Maintenant, où va nous mener la plénitude du Saint-Esprit? Eh bien, ça, c'est encore à voir. Il faut le croire. Ce n'est pas du surréalisme, c'est la parole de Dieu. Quand je vois ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, parfois on entend des idées toutes reçues. Il faut qu'il y ait des persécutions pour qu'il nous arrive un réveil. Mais ils n'étaient pas dans la persécution. Quand ils étaient les 120 à la chambre haute, ils étaient dans la promesse de Jésus. Et comme ils étaient dans la promesse de Jésus, bien sûr, avec les persécutions, parfois, on n'a qu'une chose en vue, c'est le Seigneur. Mais ce qui compte plus que cela, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. La vôtre, mais celle de mon prochain, de mon semblable, de l'espèce humaine qui est encore dehors, et qui est à mille lieues de penser qu'un jour, il peut être saisi aussi par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, rachetez le temps, frères et sœurs, car les jours sont mauvais, que cet appel de la part de Dieu puisse nous interpeller, et puis chacun sait la démarche qu'il a à faire, on a à faire à lui, car le jour où nous paraîtrons, c'est devant lui. Il n'y aura ni ma sœur, ni mon frère à côté, ni le serviteur de Dieu à côté. Seuls, nous serons devant le Seigneur, qu'il puisse dire, tu as entendu
tu as senti que c'était maintenant, que c'était aujourd'hui, alors regarde tout ce que j'ai préparé pour toi, parce que j'avais préparé sur la terre et tu l'as fait. Tu as racheté le temps, vois la gloire que je peux te donner. Tu n'auras pas d'orgueil parce que tu m'as servi, parce que tu as entendu le temps où je t'ai appelé et tu y as répondu. Si vous voulez, on peut se lever. Et pendant qu'on s'est levé, je vais dire avec vous, Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi d'avoir écouté avec un cœur honnête et bon. Mon cœur désire t'aimer. Enlève-moi les doutes, la lenteur à croire et l'incrédulité qui a bétonné mon cœur ce matin. Donne-moi un cœur contrit, brisé devant toi et en même temps guéris mon cœur brisé. Enlève mon chagrin, mes regrets, mon péché. Pardonne-moi. Donne-moi un cœur pur, car c'est à ce moment-là que je te vois. Bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.